commencer, je veux dire une chose. En étant ici devant vous, je prends des risques. Je m'explique. Un jour, un de mes enfants m'a dit, « Papa, moi, j'aime les gens qui parlent. » Je vous donne l'expression telle qu'il me l'a dite. Parlent avec leur trip. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas engagé viscéralement dans ce que je vous dis, je serai jugé comme un hypocrite. Si je vous parle avec ma tête, et que je ne suis pas engagé dans mon être intérieur, rendrai des comptes pour avoir dit et ne pas avoir fait. Alors je prends des risques parce que Dieu connaît mes limites aussi à cet égard. Une deuxième chose pour laquelle je prends des risques, c'est le sujet. Parce que quand on parle du combat spirituel, quand on parle d'un ennemi qui est vaincu mais présent, quand on le démasque, il réagit. Alors si ce soir je démasque l'ennemi, je me mets en danger et j'ai besoin de vos prières. Alors je dois vous parler de Paul. Après ce qu'on a entendu dans ces dernières journées, je dois vous parler de Paul. Je ne suis pas un historien. Je ne ferai pas la biographie de Paul, je ne saurais pas faire. Seulement, je crois à ce que la Bible dit. Et Paul dit à plusieurs reprises, soyez mes imitateurs. Et on va voir que ça met la barre très très haut. Et si on veut croire à ce que la Bible nous dit, être les imitateurs de Paul, ou on s'engage, ou on supprime ces versets. Que dit Paul? On va lire un verset dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances. Mon but constant. Quand Paul nous dit de l'imiter, il n'oublie pas de l'imiter dans sa mission. La mission est personnelle. Il nous dit de l'imiter dans sa passion. Et quel était son but constant? Philippiens 3. Verset 8, et je regarde même aussi toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu moyennant la foi, pour le connaître lui, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, étant rendue conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Mon but constant, gagner Christ. Et ça a bien tel prix pour lui que tout le reste disparaissait. Bertrand nous a dit l'autre jour que ce qui faisait abandonner les plaisirs de la terre, c'est qu'il y avait un plaisir supérieur. Quand un enfant joue avec un objet dangereux, pour le lui faire lâcher, qu'est-ce qu'on lui présente ? Quelque chose qui lui fait encore plus plaisir. Dieu ne nous dit pas d'abandonner pour rien. Dieu nous dit d'abandonner parce qu'il y a quelque chose à gagner. Et celui qui est à gagner, c'est une personne. Paul était un passionné. Et on doit être ses imitateurs dans sa passion, dans la passion qu'il avait de Christ. C'est passé la barre haut. Parce que disait Paul, la perfection, l'excellence. Alors ce soir, il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour nous tous qui sommes ici, moi y compris. Parce qu'il y a d'un côté l'excellence, et de l'autre, c'est dur à dire, c'est la médiocrité. On poursuit. Poursuivre l'excellence, le but constant de Paul, on sait de quoi, avec quoi ça s'est accompagné. Mes persécutions, mes souffrances. Poursuivre l'excellence, c'est pas sans risque. Mais rester médiocre, c'est perdre sa vie. Voilà le choix qui est placé devant nous et voilà l'enjeu de ces soirées. On ne parle pas du combat spirituel comme une théorie biblique fondée sur des passages, des vérités doctrinales qu'on peut établir. On ne parle pas du combat spirituel si on n'est pas concerné. Et si on ne se sent pas concerné, c'est qu'on a choisi la médiocrité. Où j'en suis ? Où j'en suis ? Et quel exemple notre génération a donné à la génération qui monte? Pour parler d'une façon peut-être plus percutante, pas vulgaire, mais plus que tout le monde comprendra, est-ce que nous sommes des touristes chrétiens ou est-ce que nous sommes des guerriers chrétiens? On ne peut pas viser l'excellence sans être dans le combat. Et le choix est présenté. Et ce soir, on doit décider. Les jeunes en particulier, mais nous aussi. Nous aussi. Parce que Paul a pleuré plusieurs fois sur ceux qui s'étaient engagés et puis qui ont rétrogradé. On en parlera. Poursuivre l'excellence, la perfection. C'est un combat qui n'a pas de trêve. Mais il y a des ressources, on en parlera. Et c'est l'enjeu qui est là ce soir, devant tous ceux qui m'écoutent. Et c'est l'enjeu aussi pour moi. Qu'est-ce que je choisis ? Paul avait ce but pour lui. Chercher la perfection. Il avait fait des sacrifices pour ça, mais il poursuivait. Mais il avait un but pour ceux auxquels il s'adressait, Colossiens. Colossiens 1, verset 28, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. C'est le même mot qu'en Philippiens. L'original, c'est le même mot. Paul recherchait pour lui-même l'excellence, la perfection. Et dans son ministère, à l'égard de tous ceux à qui il parlait, son but, c'était de les présenter afin que nous présentions tout homme parfait. Vous savez ce que veut dire tout homme ? C'est-à-dire qu'ici, personne n'est exclu. Et si un ne se sent pas concerné par ce tout homme, il peut partir. Voilà le but de Paul, présenter tout homme parfait. Et donc, avec ces versets-là, si on fait le choix de ne pas tendre vers l'excellence et la perfection, il n'y a pas de juste milieu, on reste dans la médiocrité. Voilà l'enjeu de toutes ces soirées. Alors, si on parle de Paul, ça commence quand ? Galates. Galates 1, verset 15. Quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, mis à part dès le ventre de ma mère. Nous naissons tous avec une destinée. Le psalmiste dit, dans le ventre, mes membres ou mes jours étaient tous écrits. Et ça n'exclut personne. C'est-à-dire que quand Dieu nous amène à l'existence, il a un plan pour nous. Ce n'est peut-être pas le plan de Paul d'aller porter l'évangile aux grands de la terre. Mais Dieu a un but. Et il faut qu'on soit persuadé de ça. Il faut qu'on soit persuadé de ça, jeune ou plus âgé, que Dieu a un but pour nous, a une destinée pour nous. Mais on a le choix de rentrer dans sa destinée ou de dire non. Je n'ai pas trouvé inscrit nulle part la destinée de Jimmy Barr, c'est ça. Et personne. Mais si je suis convaincu que Dieu a un propos pour moi, un plan pour moi, outre le plan du salut, hein, parce que le plan du salut, c'est pour tous. Mais après le plan du salut, Dieu a un but pour moi, une mission particulière, si je suis persuadé de ça, alors je m'adresse à Dieu et je dis, Dieu, me voici devant toi. Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? C'est la disposition de cœur qui compte. Je sais que tu m'as créé pour quelque chose. Je sais que ma vie doit avoir un sens. Combien de gens on voit qui viennent vers vous, qui poussoyez, hein, et vous disent, j'ai pas de sens à ma vie. Pourquoi je vis ? Alors, qui viennent, j'ai tout essayé. Il n'y a qu'à lire l'Éducateur. Salomon a tout essayé. Quelle est sa conclusion ? Vanité des vanités, tout est vanité. Je dois trouver le sens de ma vie. Je dois trouver la portion de champ que Dieu m'a donnée. N'ambitionnons pas des ministères ou des services en vue, forcément, il y en a. Mais Dieu peut me n'avoir donné qu'une petite portion de champ. mais savoir que c'est celle que Dieu m'a donnée et savoir que c'est Dieu qui m'a placé là, ça le bonheur. Je suis là parce que Dieu m'y a mis, je suis là parce que je dois servir Dieu à cet endroit. Je vous donne l'exemple, parce que pour nous, ça nous a été percutant. On a cherché une embauche pour cet été, pour faire les remplacements d'été. Puis une dame s'est présentée, d'un certain âge. Quand vous avez un entretien d'embauche, vous ne savez pas comment, ce qu'il faut décider, c'est toujours aussi un exercice de foi. Et puis voilà une dame qui nous raconte sa vie. Elle a fait tous les métiers. Puis un jour, Dieu l'a rencontrée. Dieu l'a rencontrée dans le cadre d'une communauté qui s'appelle les Petites Sœurs de Mère Teresa. Et là, Dieu lui a dit, tu abandonnes ça. Elle abandonne. Puis après, Dieu lui a dit, tu abandonnes ça. Elle abandonne. Puis encore ça. Plus de maison, plus de voiture. Elle vient, elle dit, j'ai que ça, j'ai que mon sac. Et qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans une mission de Mère Teresa au Burundi. Je suis là au milieu de la misère, sans eau, sans électricité. Je donne. Et elle ajoute, je donne sans rien attendre en retour. Et quand on la voit travailler chez nous, je n'avais jamais vu comme ça l'amour des âmes en action. Elle nous dit, quand on a Jésus-Christ dans le cœur, c'est une catholique, hein, quand on a Jésus-Christ dans le cœur, on a tout. Donc la voiture, la maison. Je viens travailler pendant les mois d'été. Pourquoi? Pour acheter des médicaments pour l'apporter à mes malades. Là. Quand vous voyez des gens qui rayonnent dans leur personne, sans parole, l'amour des âmes, vous dites quoi? Je suis médiocre. Moi, je suis médiocre. Je veux choisir d'aller plus loin. Je peux choisir d'aller plus loin. Qu'a dit Jésus? Qu'il est venu donner la vie. Voilà, puis souvent on s'arrête là. Bertrand nous en a parlé. La vie, une assurance pour l'éternité. Mais Jésus dit, la vie en abondance, et ça c'est autre chose. Quand vous avez la vie en abondance en Jésus, L'abandon se fait. Paul a vécu cette passion, et c'est cette passion-là que Paul nous dit d'imiter. Mis à part dès le ventre de sa mère, il a une mission. Et nous allons voir qu'à partir du moment où il a une mission, l'ennemi entre en action pour contrecarrer cette mission. On l'a dit, Bertrand nous l'a dit, le but de l'ennemi, c'est d'empêcher les âmes des hommes de venir à Jésus. Et s'il n'y arrive pas, les âmes d'hommes qui viennent à Jésus, le but de l'ennemi, c'est de les empêcher de grandir et de rentrer dans leur destinée. Et il va mettre toutes les entraves, et toute la vie de Paul, c'est des entraves, des entraves, des entraves. Comment l'ennemi s'y est pris dans la vie de Paul jusqu'à son adolescence pour l'empêcher d'entrer dans sa mission. Il a engagé Paul dans le fanatisme. Paul dit lui-même qu'il était zélé pour Dieu. Zélé pour Dieu. Et puis plus tard il dira, j'ai fait beaucoup, contre le nom de Christ. Contre le nom de Christ. Zélé pour Dieu, contre Christ. Voilà la première partie de la vie de Paul. Là, Satan est content. Parce que Satan sait qu'il est vaincu à la croix par Christ. Et si quelqu'un est contre Christ, c'est gagné. C'est gagné. Donc, Paul est un fanatique. Il est instruit auprès des meilleurs enseignants pharisiens, Gamaliel. Il a une place d'autorité, puisqu'il a le droit d'aller arracher les chrétiens et de les mener à la mort. Paul, zélé pour Dieu, détruit. Voilà le fanatisme. J'ai été fanatique. J'ai été de cela. Parce qu'au nom d'un zèle pour Dieu, d'un zèle mal compris, j'ai détruit des âmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces années où, que beaucoup ici ont vécu. Mais il y avait dans notre formatage de pensée un aspect pharisien destructeur. J'ai été de cela. Puis un jour, il y a un chemin de Damas. Un jour, il y a un chemin de Damas. C'est mieux ? Oui ? Donc Dieu arrête, il arrête Paul, d'une façon spectaculaire. Paul est arrêté, il est mis par terre. Qu'est-ce qui se passe? Il le dit lui-même, des écailles tombent de ses yeux. C'est rude le jour où vous vous rendez compte que zélé pour Dieu, vous êtes trompé. Et tout doit être mis en question. Qu'est-ce que j'ai cru? Comment j'ai marché? Comment j'ai pris la scène? Tout est remis en question. Et quand vous essayez de résoudre quelque chose, une de ces remises en question, vous vous rendez compte qu'il y en a une autre qui vient après. Et Dieu vous met par terre, et vous dit on repart à zéro, et on recommence. Voilà ce que Paul a vécu. Et puis quand il met par terre, là aussi Paul avait le choix. Il dit, dans son apologie, je crois que c'est acte 26, « Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. » C'est facile de vivre dans une routine religieuse, apprise, c'est confortable. Et quand Dieu met tout par terre, vous avez plus de repères, tout est inconfortable. Et là aussi, il y a le choix. Paul, tu t'es trompé. Jimmy, tu t'es trompé. Mais c'est pas trop tard. Désobéissant ou obéissant? Tu repars avec moi. J'ai jamais plus appris que depuis quand tu as été mis par terre comme ça. Et les jeunes élevés dans nos milieux ont besoin, un jour, de dire qu'est-ce que je crois, pourquoi je crois ça, est-ce que c'est parce qu'on me l'a enseigné, est-ce parce que j'ai vécu dans un milieu où j'ai été où j'ai été élevé, éduqué, ou bien j'essaye de comprendre. Et Dieu, pour nous faire comprendre, emploie des moyens qui ne sont pas toujours faciles. Quand vous êtes par terre, que vous vous apercevez que vous avez fait un travail de destruction, y compris dans votre propre famille, vous faites quoi? Dieu aide-moi. Qu'a vécu Paul pendant ces quelques jours et ces quelques temps, d'abord de cécité, puis de profondes réflexions solitaires? Oui, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, Paul a fait le choix. Du fanatique qu'il était, zélé pour Dieu, pharisien des pharisiens, sans reproche quant à la loi, on peut lire dans Philippiens 3 tous ces caractères qui faisaient de Paul, un vase destiné pour être pharisien des pharisiens. Il était de la bonne tribu, enfin, tout allait, tout cadré. Et quand Paul est par terre, il accepte la mission que Dieu lui donne. Il dit, j'ai fait beaucoup contre le nom de Christ. J'étais un antichrist, si je suis contre Christ, c'est ça. Et maintenant, je veux gagner Christ. Est-ce que c'est notre but constant? Pas être les meilleurs dans la théologie biblique, c'est pas ça le but. Parce que le christianisme, c'est pas une théologie. Le christianisme, c'est Christ, c'est une personne. Alors quand l'ennemi a échoué, quand Paul sort de la secte la plus exacte du culte juif, c'est ce qu'il dit, hein, acte 22 si je ne me trompe pas, il sort de la secte la plus exacte du culte juif, Paul maintenant rentre dans la mission que Dieu lui donne. Et si on veut résumer ce que va faire l'ennemi maintenant dans la vie de Paul, c'est résumé dans un verset qui nous est donné en acte, acte 22-22. Hôte de la terre un pareil homme, car il n'aurait pas dû vivre. Tant que Paul était un pharisien, zélé pour Dieu, mais contre le nom de Christ, il ne risquait rien. Quand il est appelé à porter le nom de Christ au roi de la terre, alors tout le reste de sa vie, ça sera ça. Hôte de la terre un pareil homme. Et il faudra voir dans toutes les circonstances que Paul va traverser le travail de l'ennemi. Rien n'est anodin. On pourrait dire, on en parlera tout à l'heure, on pourrait dire la tempête sur la mer, c'est une tempête, il y en a eu d'autres tempêtes. Quand Paul est dans un bateau qui doit aller à Rome et quand Paul a la mission d'aller à Rome, la tempête, c'est une tempête suscitée par l'ennemi. Il faut voir l'ennemi là où il se trouve. Et c'est ça le démasquer. On reparlera de la tempête. Mais Paul doit faire un premier travail sur lui-même. Bertrand nous en a longuement parlé dans la deuxième soirée. Un gros travail sur lui-même. Parce que même converti à Christ, il y a encore un énorme combat intérieur qui se mène. Et on lit donc Romains 7, Verset 23. Je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Il y a un combat intérieur qu'il faut régler. Paul ne pourra pas aller plus loin s'il ne passe pas par là. Et nous ne pouvons pas aller plus loin si nous ne passons pas par là. Voilà, Bertrand nous l'expliquait. Dans notre éducation chrétienne, ce passage-là, c'est ce qu'on appelait l'affranchissement. C'est-à-dire, vous croyez en Christ. Christ est mort pour mes péchés à la croix. Sacrifice de substitution, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais je suis un nouveau-né. Un nourrisson. Christ mort pour mes péchés, c'est la foi de base. C'est la foi qui me donne le salut, c'est la foi qui me donne l'accès à Dieu, l'entrée dans la famille de Dieu, je suis son enfant. Mais Christ mort pour mes péchés, c'est la base qui fait de moi un nourrisson. Mais quand je suis nourrisson, je suis encore esclave d'une loi qui est dans mes membres, qui est la loi du péché. Et tant que je n'ai pas compris le deuxième aspect de la mort de Christ que Bertrand nous a présenté, c'est-à-dire... Non pas Christ, mon substitut, mais moi identifié avec Christ dans sa mort, c'est-à-dire moi mort, tant que je n'ai pas compris ça, je suis esclave et ce combat intérieur persiste. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et cette étape, qui est une étape de foi, de compréhension, de la globalité de l'œuvre de Christ, cette étape-là, dans les étapes de croissance du chrétien, cette étape-là nous fait passer, c'est pas le sujet de développer la croissance, hein, mais cette étape-là nous fait passer du stade de nouveau-né au stade de fils. C'est pas pareil, parce que les mots sont différents. Vous êtes un nouveau-né, un nourrisson, et quand vous passez au stade de fils, il y a une dynamique qui s'instaure parce que Romains 8 nous dit que ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit. Et là, ce n'est pas pareil. L'Esprit est en moi une puissance qui, dans l'absolu, je dis bien, permettrait à l'homme de ne plus pécher. Parce que ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Or, on sait que même si le vieil homme est crucifié, il reste les membres. Comme image qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est pas complète, mais on peut citer cette image de quand on greffe, on coupe le tronc et on met un greffon, et tout ce qui est au-dessus du greffon, c'est une vie nouvelle. C'est un ADN nouveau. C'est pas pareil que ce qui est en dessous du greffon. Et nous avons un ADN spirituel, l'Esprit de Dieu en nous, qui nous permet de produire des fruits qui correspondent à cet ADN. Et qu'est-ce qui se passe dans le domaine naturel? C'est qu'il y a des rejetons qui partent. Et ça, c'est ce que l'apôtre appelle les membres qui sont dans la chair. La chair a été coupée, la chair est crucifiée avec Christ, il y a des membres qui ressortent. Et ces rejetons-là, il faut les identifier. Et il faut les couper. Et là, on en vient à un domaine très important dans le combat spirituel. C'est qu'il nous faut identifier tout ce par quoi Satan a encore un accès en nous. Éphésiens 4. Ne donnez pas occasion au diable. Darby a traduit occasion. Le mot littéralement, c'est ne donnez pas un lieu, un topos, comme on dit topographie, c'est l'étude des lieux, ne donnez pas un lieu. Et pour être plus compréhensible, ne donnez pas une porte d'entrée au diable. Tout chrétien, né de nouveau, qui a grandi en Christ, qui est un fils, qui est conduit par l'Esprit, tout chrétien a malgré tout des portes d'entrée. Elles ne sont pas les mêmes pour chacun. Chacun a ses propres portes d'entrée. Éphésiens 4 nous parle de la colère, on parle du non-pardon, mais chacun a ses portes d'entrée. Le mensonge, j'en ai une. Vous avez des enfants, si vous avez des enfants, vous constatez qu'il y a des enfants qui naissent avec une rectitude qui vous diront jamais de mensonge. Ils sont droits, naturellement droits. Et il y en a d'autres qui sont comme ça. Et ça, c'est une porte d'entrée. Un penchant naturel. Qu'il ne faut pas ignorer. Et qu'il faut couper. Il y a des portes d'entrée qu'il nous faut verrouiller. Et chacun doit les identifier pour lui-même. Et c'est tout le travail qui s'appelle dans la parole la sanctification. À partir du moment où je suis fils de Dieu, que j'ai compris que au-delà de la mort de Christ pour moi, je suis mort avec Christ, quand j'ai compris ça, il y a tout un processus qui dure toute la vie qui s'appelle la sanctification. Et échapper à ça, c'est échapper à l'excellence. On ne peut pas aller au stade de la perfection, puisque après le stade du nourrisson et le stade de fils, il y a ce que la Bible appelle l'état d'homme fait. Il y a trois étapes dans la croissance chrétienne. Je les donne rapidement parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais ça le rejoint parce que viser l'excellence, c'est viser la croissance et la maturité. Il y a trois étapes, comme il y a trois parties dans le tabernacle. L'étape de nouveau-né, l'étape de fils et l'état d'homme fait. Ce n'est pas forcément marqué par des grandes stèles qu'on pose et qu'on dit « Tiens, à partir d'aujourd'hui, je suis. » Mais c'est marqué par un processus. Et est-ce que je suis dans ce processus? Est-ce que j'ai décidé d'entrer dans ce processus? Ou est-ce que je dis à Dieu, « Dieu, non, Dieu, ça va, j'en ai assez. Je suis assez grand pour le moment. J'ai plus envie. » Et quand je dis « j'ai plus envie », ça veut dire quoi? Que j'ai perdu la passion. C'est pour ça que j'ai fait chanter ce cantique. Soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles. Sans ça, on se stoppe tous dans la croissance. Moi, je réclame ce feu. Soit ce feu dans mon cœur. Paul, il passe par ces étapes. Les écailles lui tombent des yeux. Il comprend maintenant qu'il doit proclamer le nom de Christ. Il comprend qu'il ne peut pas le faire s'il n'est pas dans une démarche de sanctification et de vie par l'Esprit. Et puis il y a un verset dans les Actes qui peut passer d'une façon tout à fait anodine. Et on peut le lire, Actes 13, verset 9. Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit Saint. On lit ça, vous lisez ça dans un livre, ben voilà, il avait un surnom, on lui a donné un surnom, et puis ça passe. Vous lisez ça dans la Bible, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'évoque le nom de Saul ? Shaoul, en hébreu. Qui c'est qui dépassait de la tête tous ses guerriers? C'est Saül. Donc, chez un hébreu, le prénom Saul évoquait ce roi qui dépassait de la tête tous ses guerriers. Et Dieu dit à Saul, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Maintenant, tu es Paul. Et Paul, en latin, c'est petit. Et ça, c'est aussi une leçon dure à apprendre. Parce que si je veux être utile pour Dieu, dans ma destinée, il faut que je commence par apprendre à être petit. Pas d'autre solution. Et c'est une leçon tellement difficile, que Paul, pour garder cette leçon dans sa tête, a eu besoin d'une écharpe. Voilà Satan dans la vie de Paul. Parler de l'écharpe de Paul, c'est dur. On trouve toutes sortes d'explications. Je ne vais pas rapporter la mienne, mais je dis simplement comment je comprends aujourd'hui. Une écharde pour la chair, dans la chair. Comment traduire ? On peut accepter les deux, pour la chair ou dans la chair. Et puis la chair, c'est quoi la chair qui est là ? Est-ce que c'est ma chair ? Parce que le mot chair a 3 ou 4 acceptions dans la Bible. Hein ? La chair, c'est la viande. La chair, c'est mon corps. La chair, c'est le principe de mal qui est en moi et que j'ai hérité d'Adam. Alors, c'est lequel ici ? Je ne sais pas. Mais si je dis une écharpe pour la chair, je peux comprendre que c'est quelque chose qui l'atteint dans son corps physique, peut-être. Mais je peux aussi comprendre que c'est quelque chose qui est là en permanence pour mater cette chair qui, étant morte, ne cherche qu'à pousser des rejetons. C'est dur de juger Paul. C'est dur de juger Paul. Et pourtant, il nous dit, en écrivant ça, dans les Corinthiens, Paul nous avoue qu'il a une porte d'entrée au diable. Je l'ai aussi. Et cette porte d'entrée au diable que Paul a, c'est l'orgueil. Si Satan arrive à pousser un serviteur de Dieu dans ce qui a été sa propre faute à lui, il a aussi gagné. Paul avait une porte d'entrée. Qui ne l'a pas celle-là ? Qui ne l'a pas celle-là ? Parce que je suis là devant vous, je suis exposé à ça. Donc c'est une écharde, et il est dit, il m'a été donné. Qui a donné ? Ce que je vous dis, c'est ce que je comprends. Je n'acceptais pas ça forcément, vous n'êtes pas obligé de me croire et d'accepter tout ce que je dis. Vous êtes là aussi pour juger ce que je dis. Mais qui a donné ? Est-ce que Satan donne ? Vous avez vu Satan donner quelque chose ? Satan, il troque. Je te donne tous les royaumes de la terre, mais en échange, je te prosterne devant moi. Voilà, Satan. Donc, s'il y a le mot donner, moi, je comprends que Dieu donne. Et pourtant, tout de suite derrière, c'est un ange de Satan. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. C'est-à-dire que Dieu a permis à Satan, comment dire, si Satan envoie un ange contre moi, c'est pour me faire tomber. Donc si Satan envoie un ange contre Paul, ça aurait plus tendance à pousser Paul à se mettre en avant et à s'enorgueillir qu'à le rabaisser. Or, il nous est dit que cette écharde, qui est un ange de Satan, c'est pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ça veut dire que Satan va faire une œuvre qu'il trompe. Et dans toutes les échardes que Paul a connues, que ce soit ses maladies physiques, il en parle, que ce soit ses persécutions, ses outrages, ses maltraitances, Et dans la liste qu'il donne après, on peut passer à ce passage de 2 Corinthiens, hein, 2 Corinthiens 12, qui parle de l'écharpe. C'est pourquoi, verset 10, je prends plaisir dans les infirmités, et là, infirmité, il faut y voir les maladies, parce que infirmité qui est traduit là, ça traduit le mot grec asthénie, asthénia, qui veut dire, dans un terme médical, l'asthénie, c'est la fatigue. Mais Jacques dit, quand si quelqu'un parmi vous est-il malade, c'est le même mot. Donc Paul se glorifie dans ses infirmités qui peuvent être des atteintes physiques dans son corps, il en a eu, mais la suite nous dit les outrages, les nécessités, les persécutions, les détresses pour Christ. Donc tout ce qui était contre Paul, que ce soit des événements ou que ce soit des personnes, tout ça, ça peut rentrer dans le cadre de l'écharpe. Et Paul a compris la leçon de cette écharpe. Dieu lui a dit, tu as besoin de ça en permanence, parce que les rejetons d'orgueil qui peuvent monter dans le cœur de tout homme, il faut les couper, les tenir coupés pour que tu puisses être puissant dans ton ministère et tu le seras par ma grâce. Nous, les hommes mariés, si on veut savoir nos portes d'entrée, à qui il faut le demander? Nos épouses sont perspicaces pour prendre nos portes d'entrée. Quand elles disent « là, ça ne va pas », une épouse a le droit de dire à son mari « ça, ça ne va pas ». C'est peut-être une écharpe que Dieu permet. Et l'aide qu'une épouse apporte à son mari, c'est peut-être aussi dans ce sens-là, parce qu'elles sont perspicaces pour voir nos failles. Donc Paul, on peut le suivre ainsi dans son cheminement. Et je voudrais lire un texte, acte 23. En préparant un petit peu cette soirée, en ma causant avec mon épouse, elle m'a dit, il faut que tu parles de ça. Acte 23. Je vous présente des événements de la vie de Paul, c'est décousu, hein, c'est pas une biographie où je dis telle époque, premier voyage, deuxième voyage. Non, c'est pas ça que je fais. C'est de vous dire comment Satan agissait dans la vie de Paul et comment Paul réagissait par rapport à ses attaques. Alors, on connaît cette histoire où Paul est amené devant le Sanhédrin. Il commence à se défendre. Homme frère, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. Mais le souverain sacrificateur Ananias commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera par voie blanchie, et tu as celui-là pour me juger selon la loi, et contrairement à la loi, tu ordonnes que je sois frappé. » Et ceux qui étaient présents dirent, « Injuries-tu le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. » La conséquence, Paul est en prison. La nuit suivante, verset 11, le Seigneur se tint près de moi et dit, « Et bon courage. » Pourquoi je lis ce texte? C'est pour vous montrer que Satan a des stratégies qui concerne le fait qu'on ait corps, âme et esprit. Bon, Thessaloniciens nous dit que l'être humain est formé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et dans ces trois composants, qu'est-ce que c'est qui pilote? Donc, je vous redonne une image qui n'est pas de moi, mais qui est, que beaucoup certainement connaissent. C'est-à-dire que c'est un train avec trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Et puis vous devez choisir la locomotive parmi ces trois. Le sport, c'est mon dieu. Qui c'est qui pilote? C'est le corps. Je réagis avec mes émotions, avec ma colère, avec ma jalousie, avec mes mensonges. Qui c'est qui pilote? C'est mon âme. Quel est l'ordre de Dieu? Esprit, âme, corps. Mais si je pilote avec un esprit qui n'est pas renouvelé par Dieu, si je ne suis pas passé par la nouvelle naissance, j'aurais beau piloter par mon esprit, je vais me fourvoyer. Mais si je suis passé par la nouvelle naissance, et que j'ai été renouvelé dans mon entendement, c'est-à-dire que mon esprit est renouvelé et devient le réceptacle de l'Esprit de Dieu, alors mon esprit connecté à l'Esprit de Dieu devient la locomotive. Et c'est lui qui pilote. Paul est atteint dans son corps, on le frappe, une gifle. Il réagit comment? Impulsivement, comme on le fait tous. Dieu te frappera, paroi blanchie, une injure. Quelle est la réaction de Paul? Quel est le moteur de la réaction de Paul? C'est son émotion, ce sentiment profond d'une injustice, il réagit, il injurie. Il s'est laissé piloter par son âme. Et puis, quand il est repris, Paul, qui connaît la Bible, et dont le désir est de marcher avec les enseignements de la parole, il dit oui, j'ai mal agi. Il rectifie, il dit oui, la locomotive, ça aurait dû être mon esprit, et que j'aurais pas dû me laisser aller à cette impulsivité de mon âme. Et c'est un travail qu'on a tous à faire. On a tous à faire ça. Parce que nos réactions émotionnelles, qu'est-ce qui a détruit les églises? On a souvent mis des problèmes doctrinaux pour camoufler des réactions de notre âme qui nous ont fait, comme le dit les Galates, nous mordre les uns les autres. Et quand je disais que notre génération a été destructrice, par rapport à la génération d'après, c'est parce qu'ils ont vu ces morsures. Alors, si on désire être piloté par cette locomotive qui est l'Esprit de Dieu, encore faut-il que notre propre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Et si je nourris mon esprit de choses qui le polluent, ne comptons pas sur la connexion avec l'Esprit de Dieu. Il est dit, l'Esprit rend témoignage avec notre esprit, c'est-à-dire il y a une espèce de cohérence entre l'Esprit de Dieu et notre esprit, à condition que nous ne laissions pas notre esprit humain se laisser polluer par toutes les informations auditive, surtout visuelle, je dis surtout visuelle parce que la manie des écrans, c'est ça, c'est l'image qui pollue l'esprit. Et puis après, aller capter ce que dit l'Esprit de Dieu. Si mon esprit est envahi d'images malsaines, impures, il y a d'autres choses. Hein. Si mon esprit est envahi de ce qui se passe pendant la Coupe du Monde, c'est un phénomène récent, je suis les matchs, je regarde et je me prends au jeu et je suis envahi par ça. Et puis je me dis, après je vais prier et dire, Dieu conduis-moi dans cette situation. Mais on est malhonnête. Être conduit par l'Esprit de Dieu suppose que je laisse mon propre esprit libre pour ses communications. Et je ne laisse pas s'établir un brouillard qui embrume mon esprit au point que la réception des informations venues de l'Esprit de Dieu est complètement barré. Je suis en train d'apprendre que cette sensibilité à l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui s'acquiert du fait de l'expérience. Les sens, par l'expérience, exercés à discerner le bien et le mal. Et c'est en cultivant cette sensibilité de notre esprit qu'il sera libre, dans nos temps d'écoute et de silence, de percevoir la pensée de Dieu, la pensée de l'esprit. Je vais parler du jeûne maintenant. Parce que le jeûne, pas forcément le jeûne alimentaire, mais la disposition de notre être intérieur qui se prive de choses qui ne sont pas forcément malsaines pour que notre esprit puisse rester dans un état de réceptivité, c'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Si je viens ici pour vous parler de la Bible, des combats de Paul, en ayant fait une orgie avant, je ne peux rien apporter. C'est dans des détails comme ça que se joue la vie chrétienne. Le combat chrétien se joue dans les détails. Je veux parler d'une autre scène aussi. Acte 19. Éphèse. On ne va pas lire tout le chapitre, hein, c'est une histoire qu'on connaît, où cette ville d'Éphèse voué au culte de Diane, donc un culte idolâtre, donc une ville complètement sous l'influence du démon parce que derrière l'idole, il y a le démon. Voilà, on en a vaguement parlé, on a juste prononcé le mot l'autre jour. Voilà un démon territorial. Puisqu'on a dit qu'il y avait une hiérarchie dans les êtres spirituels mauvais comme dans les êtres spirituels qui n'ont pas chuté, il y a une hiérarchie, il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des dominations, et on peut penser qu'il y a des dominations, des êtres angéliques mauvais qui sont affectés à une région. En tout cas, la ville d'Éphèse était sous l'emprise du culte idolâtre, donc démoniaque, de la Diane des Éphésiens. Et il y avait donc un commerce qui s'était institué. On n'allait pas acheter des tours Eiffel comme les touristes qui vont à Paris. On achetait des maquettes du temple. C'était un commerce. Et la puissance de l'Esprit de Dieu a été telle dans cette ville que l'économie a complètement chuté. Avec une réaction de tous ces ouvriers, qui a été la révolte. Hôte de la terre, un pareil homme, il trouve notre commerce. Il ne trouvait pas notre commerce, il s'attaquait à l'idole. Il s'attaquait au démon. Il s'attaque au démon, Satan réagit, révolution de la population. Et pourtant, que dit le dernier verset des Corinthiens ? Paul dit, Dieu a dit à Paul, « J'ai un grand peuple dans cette ville. » Et pourtant, il y a beaucoup d'adversaires. Et puis Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. » Et c'est quand on lit le passage de Paul à Éphèse, on ne voit pas de bêtes. Ce qui nous laisse penser que dans les bêtes, il faut englober toute cette population violente qui voulait la vie de Paul. Et voilà une ville, donc, qui, de l'emprise du démon, passe au royaume de la lumière. On a parlé, Bertrand nous a parlé, royaume des ténèbres, royaume de la lumière. Le démon est dénoncé, la population passe, ceux qui reçoivent, je ne dis pas que ça se fait tout globalement, mais le royaume de la lumière s'installe dans cette ville. Ça peut exister dans nos régions, sur le plateau. A-t-on assez foi dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour croire qu'une révolution pareille peut se produire dans une région? Alors, je vais vous raconter quelque chose. J'ai commencé ma carrière, j'ai été médecin de campagne dans la Haute-Vallée de la Drôme. Et entre les deux guerres, le village qui s'appelle Valdrome, qui est au bout de la vallée de la Drôme, a été l'origine d'un réveil spectaculaire qui s'est appelé le réveil des brigadiers de la Drôme. Avec à l'origine un pasteur qui s'appelait Jean Cadier, un milieu réformé. Je peux vous dire que j'ai rencontré des patients qui avaient vécu la présence de ce pasteur. Et je peux vous dire qu'ils en parlaient avec une vénération. J'ai connu en particulier une vieille chrétienne aveugle qui habitait dans une ferme reculée d'un hameau de cette haute Drôme. Et on lui disait, vous vous ennuyez pas ? Aveugle, seul dans sa maison. Et sa réponse, résultat du réveil de Jean Cadier, des brigadiers de la Drôme, comment voulez-vous que je m'ennuie ? Jésus est avec moi. Voilà une passionnée. Pas besoin d'être Paul pour être passionné. Et donc ce réveil qui a eu lieu là, le résultat dans ce village, et c'est décrit dans un livre qui s'appelle « Le matin vient » qu'on m'a donné quand on a su que je travaillais dans cette région-là, le résultat c'était ceci. Tous les bals populaires étaient désertés, tous les cafés étaient désertés, et les gens allaient aux rencontres chrétiennes. Et le maire a réagi en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites crouler le commerce de la ville. » Du village. C'est possible, c'est vrai. C'est vrai, c'est écrit. Et ce réveil s'est étendu à la Drôme, à l'Ardèche, dans le Gard. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas un historien des brigadiers de la Drôme, mais ça a marqué cette période d'entre les deux guerres. C'est quelque chose qui est dur à dire pour nous. Ça s'est passé entre les deux guerres. Ma mère était adolescente à l'époque. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, mais tu as entendu parler de ce réveil des brigadiers de la Drôme ? Tu as entendu parler de Jean Cadier ? Jamais. Pourquoi ? Parce que ce réveil venait des milieux réformés. Et notre orgueil de communauté ignorer le travail de Dieu qui s'était fait en d'autres. Nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, nous lui avons interdit parce qu'il ne nous suit pas. Et reconnaissons que la débâcle dans notre milieu des années 90 est en grande partie liée à cet orgueil de groupe, cet orgueil de communauté. On s'est trompé de combat, là. Et je dis aux jeunes qui sont là, ne prenez pas exemple sur nos guerres de communauté chrétienne. Prenez exemple sur Paul, qui était un passionné, et cherchez votre passion en Christ. Et donc, quand j'ai préparé un petit peu cette rencontre, j'ai dit, il faut que je lise l'histoire de Paul. Et j'arrive à ça. Grande et la diane des Éphésiens, un commerce qui chute. Je me dis, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Et je vais reprendre ce livre que j'ai, qui s'appelle « Le matin vient », et je trouve la même histoire, celle des brigadiers de la Drôme. qu'on a volontairement mis de côté parce qu'on était jaloux. Alors le réveil d'une région est possible. Le réveil d'une région est possible. Et Dieu attend qu'on sorte, je vais venir, de notre tourisme de chrétien. Philippiens. Philippiens 3. Verset 18. D'abord 17, « Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Car plusieurs marches, dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. » Paul est un combattant, là. Et un combattant qui pleure. Est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous pleurons sur la stérilité de nos vies, sur la stérilité de nos vies communautaires? Est-ce que nous pleurons là-dessus? Le combat chrétien, c'est souvent les larmes. Jésus a pleuré, Paul a pleuré, nous avons pleuré. Ennemis de la croix de Christ, Satan est content, hein? Voilà des gens qui sont ennemis de la croix de Christ. Ah ben voilà, la croix de Christ où Satan est proclamé vaincu, sous les pieds de Christ, et ben voilà un groupe de gens qui en est ennemis. Satan a gagné. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? De païens, d'incrédules ou de chrétiens? Les deux. Parce que la croix de Christ a plusieurs aspects. Et pour schématiser, vous avez le sang de l'agneau pascal mis sur le linteau de la porte, vous avez la mer rouge et vous avez le Jourdain. Quelqu'un qui refuse la protection du sang de Christ mis sur le linteau de la porte, c'est un incrédule, c'est quelqu'un qui est perdu éternellement, qui n'a pas le salut de l'âme, il est ennemi de la croix de Christ sous cet aspect-là. Mais nous, on a passé ce stade, hein, on est meilleur, on a passé ce stade. On est né de nouveau parce qu'on est sous l'application du sang de Christ. Est-ce qu'on traverse la mer Rouge? Est-ce qu'on traverse cette barrière qui laisse Pharaon derrière? Pharaon et ses richesses, Pharaon et sa culture, Pharaon et ses idoles, Pharaon et ses plaisirs, les délices de l'Égypte. Est-ce qu'on passe cette barrière? Ou, comme le peuple dans le désert, ils retournèrent de leur cœur en Égypte? Alors là, ennemi de la croix de Christ, sous cet aspect-là, on y est, nous, dans les chrétiens, en tant que chrétiens. Et quand il est dit dont la fin est la perdition, comment comprendre ça? Est-ce que quelqu'un né de nouveau, qui a la vie de Dieu, duquel il est dit que personne ne le ravira de la main du Père, est-ce qu'il va à la perdition? Non. Et il faut comprendre le mot perdition sous un autre aspect, comme je le comprends, hein, c'est-à-dire dont la vie est gaspillée. Dans la finalité de cette vie-là, d'un chrétien qui refuse le passage de la mer Rouge et qui est dans son cœur en Égypte, la finalité de sa vie, c'est qu'elle est gaspillée. Pour Dieu, gaspillée. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est le Jourdain. Ça reprend ce qu'on a dit avec Bertrand la dernière soirée. C'est-à-dire, dans le Jourdain, je suis au fond. C'est-à-dire, je suis mort. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et je vis en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie me donne accès au-delà du Jourdain. Et au-delà du Jourdain, c'est quoi? C'est la terre du combat. C'est-à-dire que pour entrer dans le combat chrétien, il faut que je sois au fond du Jourdain quant à mon être charnel. Je ne peux pas combattre si je ne passe pas par là. Et des ennemis de la croix de Christ à ce niveau-là, chacun répond. Mais quand la Bible nous dit qu'il y a des ennemis de la croix de Christ, combien il y en a dans cette salle? Est-ce que moi, dans ma vie, il n'y a pas des moments où il y a des choses que je refuse? Et Dieu me dit, tu es ennemi de la croix de mon fils? C'est sérieux la vie chrétienne considérée comme ça. Tu es ennemi de la croix de celui qui est mort pour toi. Pourquoi? Parce que tu refuses de mourir avec lui, et mourir avec lui, ça fait renoncer. Tu as pleinement compris mon but constant, mes souffrances, le refus de la souffrance. Et Paul pleure, et ça c'est un combat. Un autre combat, Galates. Galates 4, 19. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous, oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Chapitre 3, verset 1. Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Ça veut dire que dans cette rétrogradation des Galates, parce que Paul leur dit, vous aviez bien commencé, vous allez commencer par l'esprit et vous allez finir par la chair, ils rétrogradent. Paul dit, qui vous a ensorcelé? Ça veut dire qu'il y a... C'est la seule fois qu'on trouve ce mot dans la Bible. Je crois que le terme, quand on trouve un mot qu'on ne comprend pas bien dans la Bible, on essaye de voir où c'est qu'il est employé ailleurs pour comprendre si la signification est plus évidente. Et là, on ne peut pas le faire parce que c'est la seule fois qu'il existe. Mais il y a quand même cette connotation d'un envoûtement. C'est-à-dire, puisqu'on est dans le combat spirituel et qu'on a compris qu'il y a des puissances spirituelles mauvaises qui agissent pour enténébrer nos pensées, les Galates ont été l'objet d'un esprit d'aveuglement qui les fait rétrograder. Et Paul pleure. Il dit aux Galates, je vous ai enfanté, je vous ai amené à la foi. Et puis voilà maintenant, je suis là avec vous, je dois recommencer un travail d'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Quel travail avons-nous à l'égard de nos familles, de nos enfants, qu'on a vu rétrograder? Est-ce qu'on a ce travail d'enfantement, comme Paul le dit ici, mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille, donc il faut y voir un travail d'accouchement. Donc un investissement de Paul dans ses affections, dans ses prières pour des gens qu'il voit revenir en arrière et qu'il veut ramener. Nous avons, à l'égard de la jeunesse, à l'égard de nos enfants, un immense combat spirituel à mener, non pas contre eux, mais contre les puissances spirituelles qui ont aveuglé leurs pensées et qui les ont fait rétrograder. Je l'ai peut-être déjà dit ici, mais je compare ça souvent à Élisée. Élisée qui a été l'occasion d'un miracle à l'égard du fils de la Shulamite, ou de la femme de Shunem. Elle a eu un fils de façon miraculeuse, et puis cet enfant meurt. Et puis la femme fait appel à Élisée. Élisée, comment agit-il envers cet enfant? Nous avons donné la vie à des enfants. Nous leur avons enseigné les vérités de la parole quant au salut. Plus ou moins bien, parce que l'exemple des fois que nous leur donnions était en contradiction, mais nous avons essayé de donner des bases. Et puis, rétrogradage. Qu'est-ce qu'on fait? Élisée, il dit d'abord à Gehazi, tu prends le bâton, tu vas le poser sur la tête du garçon. Moi, je traduis ça, tu prends la Bible et tu vas l'asséner de versets bibliques pour lui dire tu t'es trompé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qui marche et ce qui marchera, et nous le croyons et nous avons confiance en ça, c'est notre investissement viscéral, et je reviens sur ce mot, notre investissement viscéral dans un combat de prière afin que les esprits d'aveuglement qui sont tombés sur notre jeunesse et sur nos enfants soient muselés pour que des écailles leur tombent aussi des yeux. Et combien de temps dure ce travail? Dieu seul le sait. Mais il ne faut pas se lasser. Voilà un combat. Voilà un combat. Quand on parle de combat spirituel, on voit souvent, c'est pas une pensée fausse, mais on voit les délivrances de démons au nom de Jésus-Christ, et on va en voir un dans Philippiens, au nom de Jésus, chasser les démons. Ça fait partie du combat spirituel. Mais si on ne retient que ça, on passe à côté d'un combat quotidien qui se joue dans les larmes, qui se joue dans la prière, qui se joue aussi, on va le voir, dans la louange. Le combat spirituel n'est pas que la délivrance démoniaque. Ça concerne des aspects de notre vie chrétienne qui sont quotidiens. Est-ce que vous pensez que le diable agit de façon intermittente? S'il nous est dit qu'il rôde, il est beaucoup plus en éveil que nous. Et le loup qui ravage nos troupeaux de moutons dans la Drôme, les loups sont aux aguets en permanence. Et la vigilance des bergers, même s'ils sont aux aguets, eux aussi, est bien souvent trompée. Satan, c'est ça. Satan, c'est un loup aux aguets. Alors, Il ne faut pas voir Satan partout. Eh bien si, Satan est partout. Satan est partout où un homme ou une femme ont décidé de prendre la direction du chemin de l'excellence. Satan va tout faire pour nous entraver. Alors acte 16. Verset 16, il n'arriva que comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en prophétisant, procurait à ses maîtres un grand gain, vint au devant de nous. Et marchant après Paul et nous, elle criait, disant, « Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très-Haut qui vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, affligé, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et alors même, il sortit. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je veux simplement dire que c'est une réalité. Et que ça existe. Et que ça existe. Et qu'il y a des gens qui ont des ministères de délivrance et qui font ça. On ne nous l'a pas enseigné, nous, dans le milieu, que ça existait. Ça existe. Paul n'a pas discerné ou n'a pas agi tout de suite. Et quand on parle de démons, on s'imagine toujours ces images qui sont faites pour apeurer les enfants. Là, il y a un démon un esprit de Python, qui proclame une vérité. Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très-Haut qui vous annonce la voie du salut. C'était quoi le ministère de Paul ? C'était ça. Voilà un démon qui dit une vérité. Pourtant, Paul a un moment. Pourquoi a-t-il attendu ? Est-ce qu'il n'a pas discerné l'esprit tout de suite ? Ou est-ce qu'il a attendu le moment de Dieu ? En tout cas, Paul a un moment dit, stop. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, sors. Ça, c'est du combat spirituel. Ça n'est qu'une partie, mais ça existe. Mais attention, si on lit un autre passage dans les Actes où on voit les fils de Séva qui ont essayé de faire la même chose, ils sont sortis nus et blessés. Parce qu'il faut une disposition d'esprit et un état de sanctification personnelle pour entrer dans ce domaine. Mais il ne faut pas l'occulter. Ça existe et peut-être que nous devons être vigilants parce que ce n'est pas exclu que ce genre de choses deviennent nécessaires de plus en plus. Pourquoi je dis cela ? Pourquoi je dis ça ? Parce que la fin des temps est marquée par un déferlement sans précédent de ces puissances spirituelles. Et j'ai lu l'Apocalypse pour voir à travers des images la façon dont le monde va être envahi, beaucoup plus qu'il ne l'a été, par un déferlement de puissances spirituelles mauvaises. Alors, ce n'est pas impossible que des serviteurs de Dieu consacrés, sanctifiés, s'engagent dans un tel ministère. Pourquoi ? Je me suis souvent posé la question, pourquoi il est parlé de démons tant et plus dans les évangiles et dans les actes, dans l'Ancien Testament ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Christ vient, le monde démoniaque se manifeste. Là où le royaume de la lumière est introduit, le royaume des ténèbres réagit. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le royaume de la lumière dans la personne de Paul démasque le démon, le chasse. La réaction, Paul est en prison. C'est pour ça que je disais qu'on se met en danger quand on démasque l'ennemi, parce qu'il réagit. Un ennemi qu'on démasque et qu'on chasse ne s'avouera pas vaincu. Paul chasse le démon, la conséquence, il est jeté en prison. Là aussi, ça fait perdre un gain. Il y a toujours un argument d'argent derrière, mais Satan agit derrière. Donc Satan est derrière l'argent, et Paul est en prison. Et là, on en vient à travers le verset 25. Sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient, et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, etc. Le sujet comportait cet intitulé, les oppositions, les combats, les luttes, et les ressources. On a deux ressources, là. On a deux ressources. Paul et Silas sont en prison. L'ennemi a réagi, il a fait emprisonner Paul et Silas. Paul prie, Paul et Silas prient, et ils chantent les louanges. La prière et la louange. J'ai dépassé l'heure. Quel est le pouvoir de la prière ? Si on lit dans Daniel 10, Daniel est en prière depuis 3 semaines. Et puis l'ange Gabriel vient et lui dit, depuis le moment où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier, je suis venu. Il a été retardé, on ne peut pas lire le passage, mais il a été retardé dans son intervention auprès de Daniel. Mais la prière de Daniel a mis en mouvement le monde angélique. C'est ça nos réunions de prière ? Nos réunions de prière, c'est quoi souvent ? Des listes de courses. Mon Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est vrai, on emporte nos besoins à Dieu. Et là, c'est quoi ? Ça met la prière à un niveau extraordinaire, c'est-à-dire moi sur la terre. J'ai le pouvoir, par la prière, de mettre en mouvement le monde angélique. La prière. Et quand il est dit dans l'armure complète, toutes sortes de prières, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes. Alors on a évoqué la prière de délivrance, au nom de Jésus, je t'ordonne, oui, ça c'est un aspect. Mais il y a d'autres aspects de la prière. La prière d'intercession, la prière, Daniel, d'humiliation. Et c'est la prière d'humiliation de Daniel qui a fait venir l'ange à son secours. Est-ce qu'on sait s'humilier vraiment ? Est-ce qu'on sait s'humilier vraiment ? Il y a une différence entre s'humilier d'une façon globale et s'humilier dans le détail. Voilà ce que j'ai fait. Ça, ça a de la valeur. Nous nous humilions de notre bas état, on l'a entendu ça. La vraie prière d'humiliation et de compréhension des voies de Dieu. Daniel applique son cœur à comprendre. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux me dire, Dieu, à travers ça ? Le monde angélique se met en mouvement en notre faveur. Et il chantait les louanges. Là aussi, c'est une profonde remise en question quant à nos cultes. Quel est l'impact de la louange sur le monde angélique ? Psaume 8. Verset 2, par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force. Alors, on ne va pas lire la citation qui en est faite dans Matthieu, mais dans Matthieu, c'est dit, tu as établi ta louange. Il y a une correspondance entre la force et la louange. Hein. Ce n'est pas une erreur de traduction dans Matthieu si c'est cité louange à la place de force. Hein. C'est voulu par l'Esprit de Dieu. Tu as établi ta louange à cause des adversaires afin de réduire au silence l'ennemi. Est-ce que nous avons cette notion que nos louanges personnelles et collectives ont cet effet de réduire au silence l'ennemi ? C'est-à-dire que par notre activité de louange sur la terre, on a un impact sur le monde angélique mauvais. Réduire au silence. Dans quel état d'esprit on vient au culte quand on sait qu'il y a cette force là-dedans ? Ça change notre vision des choses. Et qu'est-ce qui se fait dans Acte 16 ? Ils chantent les louanges. Qui est-ce qui vient ? C'est un tremblement de terre anodin comme ça. Il y a des plaques qui ont bougé. C'est pas dit. Mais l'impact de la louange a eu cet effet d'un tremblement de terre dont l'origine est sans nul doute une intervention divine, angélique, pour libérer les prisonniers. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Christ ? Le tremblement de terre qui a ouvert les prisons, c'était un tremblement de terre ordinaire, ou c'était un tremblement de terre parce qu'il y avait une puissance spirituelle qui avait été vaincue à la croix ? Chaque fois qu'il y a une victoire dans le monde spirituel, ça peut très bien se répercuter sur des événements locaux, des événements terrestres, cataclysmiques, Rien ne... Si on lit dans l'Apocalypse, le nombre de tremblements de terre liés à ce qui se passe dans le ciel, et bien là, un tremblement de terre qui libère Paul et les prisonniers, c'est le monde angélique, bon, qui est envoyé en réponse à la louange. L'ennemi est réduit au silence. Vous voyez comment cette vision du combat spirituel remet en question profondément des choses aussi fréquentes que nos réunions de prière et nos cultes. Ça ouvre des horizons. Nous avons de la puissance à travers nos louanges. Je vais aussi donner aussi comme autre ressource qu'on peut entrevoir dans l'armure complète de Dieu. C'est la vie communautaire. Un chrétien seul est exposé. Quand on étudie, comme ça a été fait hier, l'armure de Dieu, l'armure complète, vous voyez plein d'éléments de notre corps qui sont protégés, mais il y en a un qui reste exposé. C'est le dos. Et le dos est protégé par qui ? Par Laurent qui est derrière moi. Donc si je n'ai pas l'aide de mes frères dans le combat, je suis vulnérable à un endroit où je ne m'y attends pas. Et donc la puissance du combat spirituel existe aussi, se fait aussi dans la vie communautaire. C'est pour ça qu'un croyant ne doit pas rester seul. Mais dans une vie communautaire, qui est vécue comment ? Un club d'amis ? Ou comme on le chante sans le réaliser, l'Esprit Saint, notre directeur. Là, il y a la puissance. Quand on ronronne, c'est le sommeil. Je pense à, je le cite, parce qu'une des ressources, c'est la grâce de Dieu, hein, bien sûr. Dieu a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ton infirmité, ma grâce te suffit. Et je pense à cette citation que j'ai trouvée aussi dans ce livre, Le matin vient, là, concernant les brigadiers de la Drôme, où on a cette pensée de Whitefield, qui était un des agents du réveil méthodiste au Pays de Galles. Et il dit ceci, « Seigneur, si je m'endors sur l'oreiller de ta grâce, réveille-moi par quelques épines de ta couronne. » L'écharde nécessaire. On s'est souvent endormi sur la grâce de Dieu. Dieu est suffisant, sa grâce est. Et on a tellement bien dormi qu'on n'a pas vu que l'ennemi était là. Et Whitefield a bien compris ça. Il a dit, réveille-moi par quelques épines de ta couronne. Il faut que je connaisse quelque chose des souffrances de Christ. La grâce est suffisante ? Oui. La souffrance est inévitable ? Oui. Voilà, je vais terminer. Je voulais encore parler de Paul dans la tempête, mais pour montrer qu'une tempête n'est pas anodine non plus. Prenons dans l'Évangile la tempête qui survient sur le lac de Tibériade. Jésus est dans la barque, il est sur le lac de Tibériade, et il va vers le pays des Gadaréniens, parce que le pays des Gadaréniens est sous l'influence d'un démon qui s'appelle Légion et qui terrorise le pays. Satan sait très bien que Jésus est en route pour aller délivrer le pays des Gadaréniens, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il déclenche une tempête. Il y a un lien entre les paragraphes. Ce n'est pas dit Satan a déclenché une tempête. Mais quelle est la finalité de cette tempête ? Si on pouvait faire sombrer Jésus, le pays resterait sous l'emprise des démons. Paul, dans la tempête d'Acte 27, c'est la même chose. C'est la même chose. Paul, il part captif, il va vers Rome, et il avait cette mission de porter le nom de Christ devant les grands de la terre, y compris devant l'empereur. Et il avait une deuxième mission, il le dit dans les Colossiens, de compléter la parole de Dieu. Or, compléter la parole de Dieu, il l'a fait pendant sa captivité à Rome. Donc il fallait qu'il aille à Rome pour avoir ce temps pour compléter la parole de Dieu. Que fait Satan ? Mais c'est pas dit. Mais il faut, je crois, avoir cette vision de Satan cherchant toujours à entraver l'œuvre de ceux qui se sont engagés pour Dieu. Satan déclenche une tempête. Si Paul sombre, sa mission est interrompue. Alors Paul, il est un peu corrigé par l'ange. Tu ne feras la perte de aucun de ceux qui est avec toi dans le bateau ne perdra la vie. Parce qu'il faut que tu ailles à Rome. Donc la tempête de Satan, non seulement ne va pas faire sombrer Paul, mais va être l'occasion de la délivrance et de la conversion de beaucoup sur l'île de Malte. Satan a fait une œuvre qu'il trompe. Et à cet égard, dans cette tempête de Paul, il y a un passage qui m'arrête. Je m'excuse de dépasser. Acte 27. Ils jetèrent le froment à la mer, verset 38. Paul dit, parce qu'il leur dit de manger, et puis le reste de la provision de froment est jeté à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le froment jeté à la mer. Qu'est-ce que c'est que le froment dans la Bible? C'est la nourriture par excellence. Le blé de la parole de Dieu. On jette ça à la mer. Il faut manger. Et quelle est la leçon, ça? C'est que dans les tempêtes de nos vies, et on en a tous dans nos vies, et on aura des tempêtes dans notre civilisation, ne sera utile pour tenir bon que ce que nous aurons assimilé et digéré. Le froment qu'on a sur nos bibliothèques ne sert à rien si nous ne l'avons pas assimilé et intégré dans notre vie. Donc c'est le temps. Nous ne savons pas quelles sont les tempêtes qui vont venir sur notre société. Nous savons déjà qu'elle est sous l'emprise d'esprits mauvais qui font dériver vers une moralité qui est contre la parole de Dieu. Nous savons que Satan se promène ça et là sur la terre, et par quel moyen Satan se promène le mieux actuellement, c'est par Internet. Notre société va à la dérive. Nous sommes sur un bateau qui va à la dérive. Et si nous ne réagissons pas en utilisant le temps que Dieu nous donne pour assimiler une nourriture qui nous sera profitable, ce n'est pas celle que nous avons sur nos bibliothèques qui nous sauvera. Voilà, je termine. Et si j'ai une conclusion à donner, je la donne surtout aussi pour nous tous, mais surtout pour les jeunes. C'est que quand on ébauche cette vision des temps vers lesquels nous allons, la conclusion sera la même que celle qu'on nous a donnée hier, c'est-à-dire qu'il nous faut entrer dans la résistance. Il faut que les jeunes se lèvent. Il faut que les jeunes se lèvent avec cette notion qu'ils entrent dans un combat et qu'ils entrent dans une résistance. Ça ne veut pas dire que les moins jeunes n'ont rien à faire. Vous savez, dans notre région, nos parents nous racontent la résistance du Vercors. Donc il y avait les jeunes qui allaient se cacher, qui sabotaient, etc., qui faisaient le travail sur le terrain. Et puis il y avait les maisons amies, et dans la clandestinité, on les accueillait, on les nourrissait, on les faisait dormir. Ça aussi c'était du combat. Chacun a sa place dans le combat. Mais il faut comprendre que c'est le moment ou jamais, dans le temps où nous vivons, il est dit dans Timothée, dans les derniers temps, de la même manière que Jannès et Jambres, donc les devins et les magiciens, ont agi du temps de Moïse, de la même manière, dans les derniers temps, il y aura ces puissances de sorcellerie, de magie, qui vont déferler sur notre société. Et si on n'est pas nourri d'une parole qu'on a assimilée, ingérée, qu'on a fait nôtre, on sera pris dans ces filets de l'ennemi. Alors oui, les jeunes, il faut que vous vous leviez. Il faut que vous vous leviez. Pas prendre l'exemple du ronron qu'on a souvent montré. Il faut se lever pour entrer dans le combat. Et nous, les plus âgés, il faut être dans cette activité de prière et d'intercession pour ceux qui sont en première ligne. Les arrière-gardes protègent les premières lignes. Et il faut que nous soyons tous engagés dans un combat qui va s'intensifier. Donc il faut que nous soyons armés. Je vais goûter une dernière pensée, excusez-moi. La prière dominicale, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La prière dominicale, elle nous dit que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre, comme dans le ciel. Que ta volonté soit faite dans ma propre vie sur la terre. Comment elle se termine ? Délivre-moi du malin. C'est important. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, mais en même temps le malin est là. Seigneur, délivre-moi du malin. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vive de Christ.